Chapitre 11. Devant le jury. Lorsque le garde eut ouvert toute grande la porte du compartiment assigné aux accusés, qui était juste en face des larges fenêtres de la salle des assises, le jour, en pénétrant dans le couloir obscur, y projeta sur le gris de la muraille une sorte de panneau lumineux. Madame de Blin s'arrêta brusquement. Cette porte lui faisait l'effet d'un cadre où elle allait se placer comme pour fixer plus complètement encore les regards avides de tous. Les forces lui manquaient à ce point qu'elle mit inconsciemment sa main sur le bras du gendarme qui, la voyant hésiter à le suivre, s'était rapproché d'elle. Toutefois, cette faiblesse ne dura qu'un instant. En entendant M. Barthet lui dire « Courage !» elle se redressa et d'un pas ferme franchit le seuil maudit. Mais arrivée d'un élan au milieu de la loge, frappée au visage par les rayons du soleil qui venaient de percer les nuages, comme pour saluer ironiquement son entrée au banc d'infamie et la mettre en pleine lumière, à la vue de cette barrière de chêne qui la séparait de cet espace, gouffre où s'agitait la foule, monstre à mille têtes dont les yeux la dévoraient, le sang lui afflua au cœur. Elle porta les mains à son visage comme pour en arracher le voile qui obscurcissait sa vue, et elle s'affaissa lourdement, au hasard, sur l'un des sièges qui se trouvait là. Ce fut dans tout l'auditoire un mouvement de pitié, à l'apparition de cette veuve en grand deuil du mari dont on la disait l'empoisonneuse. Puis, les cris répétés de « Assis, assis !» s'adressant à quelques femmes, mesdames Lachaussée et Babou entre autres. Pour mieux voir la pauvre Réa, elle s'était levée. Du banc des avocats où il venait de prendre place à côté de maître Langerolle et Leblanc, William Whitson s'élança contre la balustrade sur laquelle Madame de Blin demeurait appuyée. Il lui dit quelques mots à demi-voix, lui fit respirer des sels, et l'Américaine releva bientôt la tête pour ne plus offrir à la curiosité publique qu'une physionomie où on pouvait lire, il est vrai, les douleurs de 2 mois de torture, mais qui n'exprimait plus que l'énergie. Quant à Félix Barthet, après s'être incliné devant la cour, il avait du regard salué ses amis et, rassuré par la nouvelle attitude de celle dont l'accusation le faisait le complice, il s'était assis à l'autre extrémité du compartiment, laissant ainsi entre sa co-accusée et lui 2 sièges que les gardes se préparaient à occuper lorsque le président de la cour leur commanda « Placez-vous en arrière !» Ces hommes obéirent et adossèrent leurs chaises à la muraille. Sévèrement vêtus de noir, le ruban de la médaille militaire à la boutonnière, Barthet était parfaitement calme. Sur les avis réitérés de l'huissier, le silence s'était fait dans la foule. Pendant qu'on procédait au tirage au sort des jurés, Elias Panton, le révérend Jonathan et les amis de Félix Barthet prenaient place sur la première des banquettes qui leur avaient été réservées. Lorsque les jurés furent à leur poste, Monsieur de la Marnière leur lit l'allocution accoutumée relativement à leurs devoirs. Puis il adressa aux accusés les questions d'usage pour constater leur identité. L'honorable magistrat avait dit « Madame » en parlant à Réa et s'était dispensé de faire précéder le nom de Barthet du mot « accusé ». Madame de Blin était dans un tel état de prostration que maître Langerolle dut la rappeler à elle en lui touchant la main. Alors, la malheureuse se soulevant à demi, dit d'une voix étranglée.
Marie Réa Panton, veuve de Blin, née à Philadelphie en 1862.
Et d'une pâleur de morte, elle s'affaissa de nouveau sur son siège. L'artiste parisien, debout, la tête haute, le regard droit devant lui, sans viser à les faits, mais simplement et avec fermeté, répondit. Raoul Félix Barthet. Né à Lyon en 1848, peintre, demeurant à Paris rue d'Offémont 46, décoré de la médaille militaire pendant le siège de Paris. Cette phrase dont les moindres mots parvinrent jusqu'au fond de la salle fut suivie d'une sorte de murmure sympathique du public, et les magistrats composant la cour purent entendre derrière eux, sur l'estrade, le général Sauvière qui grondait avec colère. « Il ne l'a pas volé, cette décoration-là, le brave garçon !» « Soyez attentifs à ce que vous allez entendre, » dit aussitôt le président aux accusés. Et, sur son ordre, après avoir donné connaissance de l'arrêt de la cour, le greffier commença, au milieu d'un profond silence, la lecture de l'acte d'accusation. Ce document était-il bien l'œuvre de M. Lachaussée ? Il est probable, au contraire, que le procureur général avait appelé à son aide ses collaborateurs accoutumés, messieurs Duret et Babou, pour le rédiger, car c'était un exposé rapide et clair, sans phrases dramatiques ni détails inutiles. Des faits constatés par l'instruction depuis la mort inattendue de M. Deblin, jusqu'aux preuves recueillies sur les causes de cette mort violente et celles qui avaient été relevées ensuite contre ceux qui s'étaient rendus coupables de ce crime. Cet acte se terminait par ces mots qui firent courir un frisson dans l'auditoire. En conséquence, Marie Réa Panton, veuve Deblin, et Félix Barthet sont accusés d'avoir commis, sur la personne de Raymond Deblin, un empoisonnement ayant causé la mort, avec cette circonstance aggravante de la préméditation, crime prévu par les articles 296, 297, 301 et 302 du Code pénal. « Voilà de quoi vous êtes accusé, » dit le président à la jeune femme et à l'artiste, sans revenir sur aucun point de la lecture qui venait d'être faite. « Vous allez entendre les charges qui seront produites contre vous. » Il ne restait plus, avant d'entrer dans le vif des débats, qu'à procéder à l'appel des témoins. Le greffier le fit à haute voix. La plupart étaient des domestiques des Deblin. Madame du Sortois, dont on se rappelle les explications si graves devant M. Babou, avait mis en avant sa proche parenté avec l'accusé pour solliciter la faveur de ne pas paraître à l'audience. Non sans quelque hésitation, le président le lui avait accordé. On lirait sa déposition écrite. L'honorable M. de la Marnière avait également décidé que, puisqu'il n'en exprimait pas le désir, M. Elias Panton et le révérend Jonathan ne seraient pas entendus. Nous pensons inutile d'affirmer que si l'oncle de la malheureuse Réa allait ainsi rester dans l'ombre, c'était bien malgré lui. En effet, depuis un mois, le clergyman préparait un discours sur lequel il fondait les plus belles espérances, non pour démontrer l'innocence de sa nièce, excellent homme n'en doutait pas, mais pour convertir quelques âmes aux doctrines mystiques de Swedenborg. Et il n'avait pas été facile de lui persuader que, tout en faisant partie du temple de la justice, une salle d'audience criminelle n'est rien moins qu'une chaire ouverte aux controverses religieuses. Aucun témoin à des charges n'était cité par Félix Barthet, à la grande surprise du procureur général. Mais maître Langerolle avait informé ce magistrat, 3 jours avant l'ouverture des débats, conformément à la loi, qu'il ferait entendre Dumont, le cocher de Madame Deblin, et un sieur Adrien Millet, employé de l'octroi, à Vermel. Dès que les témoins se furent retirés pour ne plus revenir que dans l'ordre où ils seraient appelés, l'honorable Monsieur de la Marnière commença l'interrogatoire. Ce fut d'abord à Madame Deblin qu'il s'adressa. « Vous savez de quoi vous êtes accusé, lui dit-il. Vous avez refusé de répondre au cours de l'instruction. Peut-être pensiez-vous qu'il en est en France ainsi que dans votre pays où les accusés ne doivent pas être interrogés. Votre intention est-elle de garder le même silence en face de messieurs les jurés ? Vous en avez le droit. Si vous éprouvez quelque peine à vous lever, vous pouvez rester assise. » La pauvre femme, qui avait repris un peu de calme, inclina légèrement la tête pour remercier le président de cette marque de bienveillance. Et après s'être recueillie pendant quelques secondes, elle répondit avec une certaine fermeté, sans trop s'émouvoir de tous les regards fixés sur elle. « Je suis prête à donner les explications nécessaires sur celles de mes actions que la justice a le droit de connaître. Si j'ai agi autrement à l'égard de M. le juge d'instruction, c'est que, dès les premiers moments de ma comparution devant lui, il m'a interrogé comme s'il ne doutait pas de ma culpabilité. Or, je jure, sur mon salut éternel, que si mon mari a été empoisonné, nous sommes étrangers, M. Barthet et moi, à cet horrible crime. » « Vous n'ignorez pas que M. Deblin avait fait un testament par lequel il vous laissait toute sa fortune. » « Je le savais parce qu'il me l'avait dit, et je ne pouvais en douter car je connaissais son affection pour moi. J'avais refusé de prendre connaissance de cet acte. À cette époque, c'était 6 mois après notre mariage, je devais d'ailleurs espérer que je deviendrais mère. Je considérais par conséquent ce testament comme fait en faveur des enfants que je pourrais avoir. Je ne fis à ce sujet qu'une observation à mon mari. Ce fut pour lui rappeler que je devais être riche moi-même un jour, et que cela lui permettait donc de ne pas oublier sa tante et ses cousines dans ses dernières volontés. C'est sans doute à cette observation que se rendit M. de Blain, en ajoutant à son testament le codicille par lequel il a laissé une rente viagère à Mme du Sortois et une dot de 100 000 francs à chacune de ses filles. Peut-être M. de Blain, qui aimait beaucoup ses parentes, aurait-il pensé à écrire ce codicille lors même que je ne lui aurais parlé de rien. Votre mari a fait aussi, à votre profit, une assurance sur la vie de 200 000 francs. Vous le saviez ?
Je n'ai connu l'existence de ce contrat qu'une année après sa signature. Mais cela m'a peu étonnée, étant d'un pays où cet acte de prévoyance est fréquent, même de la part des chefs de famille les moins fortunés.
À ce sujet, je me permettrai de faire remarquer à la cour, dit le défenseur de Mme de Blain, que la compagnie d'assurance croit si peu à la culpabilité de ma cliente qu'elle ne se porte pas partie civile.
Cet argument fera partie de votre plaidoirie, maître Langerolles, observa le président.
Ce point spécial des débats avait sans doute réveillé quelques souvenirs douloureux dans l'esprit de Wilson Maxwell, car il avait rougi en regardant Réa. Monsieur de la Marnière continua.
Ce sont toutes ces dispositions en votre faveur qui ont conduit le parquet, après la constatation de l'empoisonnement de votre mari, à soupçonner que vous n'étiez pas étrangère à ce crime. Vous savez quelles sont les charges relevées contre vous par l'instruction. Je dois cependant vous les rappeler pour que vous puissiez leur opposer les explications que vous jugerez utiles. Je ne vous parlerai pas des circonstances dans lesquelles vous êtes devenue la femme de M. de Blain. Nous n'avons pas à faire ici la critique des mœurs américaines. Mais quand on connut à Vermelle, en France, où le mariage est prononcé par la loi et béni par la religion, quelle que soit l'église à laquelle on appartienne, la rapidité avec laquelle votre union avait été faite, cela donna aisément prise à la malveillance. Et lorsqu'on vous vit entraîner votre mari dans une existence de fièvre et de luxe, qui n'est pas dans nos usages, on en tira, trop aisément peut-être, des conclusions fâcheuses pour vos sentiments d'épouse et pour votre réputation.
J'avais une affection très sincère pour M. de Blain. Je le savais riche, et j'avais moi-même de la fortune. Il semblait prendre plaisir au fait que nous donnions. Nos dépenses ont toujours été inférieures à nos revenus. Je n'ai jamais cessé de respecter le nom français que j'ai encore l'honneur de porter. »
Réa avait articulé ces mots, les derniers surtout, avec une telle énergie qu'un murmure de sympathie les accueillit aussitôt. « J'arrive maintenant, reprit l'honorable conseiller, à l'accusation même. La santé de M. de Blain avait toujours été fort bonne. C'est seulement à la fin du dernier hiver qu'il parut souffrir. Son ami, le savant docteur Plemen, le soignait pour une maladie nerveuse de l'estomac. Lorsque les insomnies de son malade étaient trop prolongées et ses douleurs névralgiques trop vives, il lui ordonnait des potions opiacées et des piqûres hypodermiques de morphine. Était-ce là le seul traitement que suivit votre mari ?
Je le crois, mais je ne pourrais l'affirmer. Monsieur de Blain n'aimait pas que je m'occupasse trop de sa santé. Il mettait un grand amour-propre à dissimuler ses souffrances à tout le monde, surtout à moi. Et comme monsieur le docteur Plemen m'avait dit qu'il ne s'agissait que d'une affection sans gravité, je n'avais aucune inquiétude.
L'état de votre mari ne vous a-t-il pas semblé s'aggraver au fur et à mesure que la campagne électorale qu'il poursuivait se faisait plus fatigante et plus indécise dans le sens d'un résultat favorable ?
Il est certain qu'il était devenu nerveux, impressionnable, et je dois reconnaître qu'à ce sujet, je ne suis pas sans reproche, puisque c'est moi qui ai excité l'ambition de M. de Blain au lieu de le laisser vivre de l'existence tranquille qui avait toujours été la sienne.
La jeune femme avait fait cet aveu avec une expression véritablement touchante. Ses yeux étaient remplis de larmes. Dans la soirée du 22 septembre, poursuivit M. de la Marnière, M. de Blain ne vous a-t-il pas semblé plus souffrante encore que les jours précédents ?
Il avait parlé longtemps dans une réunion publique, répondit la malheureuse fille d'Elias Panton. Et après le dîner, bien qu'il eût mangé de fort bon appétit, il se plaignit de violentes douleurs à l'estomac et dans la tête. Nous étions seuls à la maison avec le docteur Plemen. Celui-ci constata que mon mari avait un peu de fièvre et lui conseilla de se coucher de bonne heure.
Il lui ordonna aussi de doubler la dose de chloral qu'il prenait d'ordinaire et de se faire une piqûre de morphine. Monsieur de Blain avait-il l'habitude de ces petites opérations ? Est-ce qu'il en usait fréquemment ?
Non, assez rarement au contraire. De plus, le docteur m'avait affirmé que cette solution de morphine était très légère et ne présentait aucun inconvénient.
C'est en effet ce que l'instruction a relevé, en consultant les ordonnances de M. le docteur Plemen. Alors, ce soir-là, M. de Blain est remonté chez lui plus tôt que de coutume.
Il était 10 heures à peine. Après nous avoir souhaité le bonsoir à son ami et à moi, il s'est retiré avec son valet de chambre.
Vous, qu'avez-vous fait ?
Je suis restée assez longtemps dans mon salon avec M. Plémen, puis, après qu'il m'eut quittée, je suis rentrée chez moi à mon tour.
Sans passer par l'appartement de votre mari ?
Oui, monsieur. Je l'ai déjà dit, M. Deblin n'aimait pas qu'on parût inquiet de sa santé. Je l'aurais peut-être contrarié en entrant chez lui. D'ailleurs, je devais supposer qu'il avait certainement suivi les conseils de son médecin, qu'il dormait déjà.
Ce soir-là, votre femme de chambre, Pauline, ne vous a pas donné ses soins habituels ?
Non, elle était malade et je l'avais engagée à remonter chez elle aussitôt après le dîner.
Vous devez comprendre quelle force prend l'accusation dans cet isolement où vous vous êtes trouvé précisément ce soir-là. Personne ne peut dire ce que vous êtes devenu ni ce que vous avez fait après le départ de M. le docteur Plémen. D'un côté, le valet de chambre de votre mari le quitte à 11 heures et ne rentre plus chez lui, ce qu'il ne faisait du reste que quand son maître le sonnait. De l'autre, votre femme de chambre ne vous a pas vu depuis 10 heures du soir jusqu'au lendemain matin. Les portes des cabinets de toilette qui séparent votre appartement de celui de votre mari étaient-elles fermées d'ordinaire ? Je veux dire, fermées à clé ou à l'aide de verrous ?
Ces portes n'étaient jamais que poussées, de façon que M. Deblin et moi, nous puissions toujours passer de l'un chez l'autre.
Dans cette nuit du 22 septembre, vous avez donc pu vous rendre auprès de votre mari ?
Je l'aurais pu, du moins, mais hélas, je ne l'ai pas fait.
Vous n'ignorez pas qu'il a été prouvé par une expérience que, de votre chambre, on entend distinctement les cris poussés dans la chambre de M. Deblin, malgré les deux pièces qui les séparent, même quand les portes de ces pièces sont fermées.
Je le crois, et j'ai la conviction que les cris de mon mari seraient venus jusqu'à moi s'il avait demandé du secours. D'autant plus que je laissais toujours la porte de mon cabinet de toilette ouverte et que M. Deblin, sans doute, en faisait autant chez lui. Par conséquent, une seule porte nous séparait. Et aucun bruit, aucune plainte ne sont arrivés jusqu'à vous. Est-ce que si j'avais entendu quoi que ce fût, je n'aurais pas volé au secours de mon mari ?
M. Deblin est mort empoisonné par un sel qu'on nomme l'arséniate de cuivre. Et ce toxique violent vous a été fourni, selon l'accusation, par celui qui est ici comme complice du crime dont vous êtes accusé. Cette complicité prend sa base principale dans une correspondance, saisie chez vous à la malle, dans un tiroir secret d'un meuble placé dans votre chambre à coucher. Ces lettres ne laissent aucun doute sur la nature des relations qui existaient entre celui qui les a écrites et celle qui les a reçues. Or, ces lettres sont de Félix Barthé, il ne le nie pas. Il n'aurait pu d'ailleurs le faire, car son écriture est facile à reconnaître. Je ne lirai aucune de ces lettres, mais je dois vous rappeler qu'au milieu des expressions d'une passion ardente se trouvent, fréquemment répétées, des pensées qui trahissent le désir de l'amant d'être le seul possesseur de sa maîtresse, de la voir devenir libre, pour vivre en commun à Paris avec elle, sur un théâtre digne de sa beauté. L'écrivain maudit les liens légaux qui attachent celle qu'il aime à un autre. Cet autre est ambitieux, tandis que lui, il n'a qu'un seul objectif, être toujours et uniquement aimé. Par une précaution assez rare, mais qui s'explique par le danger auquel cela vous aurait exposé, votre nom ne figure pas dans ces lignes si compromettantes. Mais vous y êtes désigné par des qualificatifs d'adoration qu'il est trop facile de traduire. Quelles explications pouvez-vous donner à l'égard de cette correspondance, que vous avez si soigneusement gardée, comme les femmes conservent presque toujours les lettres qui doivent les perdre ? Madame Deblin ne répondit pas. Très pâle, plus profondément émue encore qu'au premier moment de son interrogatoire, elle baissait la tête. Il était visible que 1000 sentiments divers l'agitaient. Mais l'auditoire, qui attendait avec impatience ce point scandaleux des débats, ayant fait entendre un murmure désapprobateur, car le silence de la prévenue semblait un aveu, la jeune femme se redressa et, suivant sans doute le conseil que venait de lui donner Maître Langerolles, elle répondit.
Ce n'est pas à moi que ces lettres ont été adressées. C'est un dépôt qui m'a été confié.
Messieurs les jurés, observa le président, ne pourront peut-être admettre cette explication que si vous faites connaître le nom de la personne qui vous a remis ces lettres.
Je ne puis ni ne dois prononcer ce nom.
Prenez garde, votre refus pourrait être interprété d'une façon dangereuse pour vous.
Il arrivera de moi ce qu'il plaira à Dieu. Je ne trahirai pas un secret qui n'est pas le mien.
L'Américaine avait retrouvé toute son énergie pour jeter ses derniers mots. Et, comme si elle eût prévu l'accueil qui devait leur être fait par la foule, les mouvements qui se manifestèrent aussitôt ne la troublèrent pas. Les uns approuvaient hautement la conduite de l'étrangère.
elle donnait là une nouvelle preuve de son honnêteté et de son mépris pour l'accusation dont elle était l'objet. Selon les autres, elle se perdait, sa culpabilité était évidente. Tout à Madame Deblin, on n'avait pas remarqué l'attitude de Félix Barthet. Pendant l'interrogatoire de la jeune femme, son visage était resté impassible. Il avait, pour ainsi dire, évité de la regarder, tandis que, quand elle en était arrivée à ses explications à propos des lettres, il s'était au contraire vivement retourné de son côté, comme s'il eût craint de sa part quelque acte de faiblesse. Et, à ces derniers mots, il avait répondu par un sourire exprimant tout à la fois son admiration et sa reconnaissance. Monsieur de la Marnière, ayant du geste indiqué à la veuve de Raymond que son interrogatoire était terminé, celle-ci s'était assise. Le peintre, au contraire, comprenant que son tour était arrivé, il s'était levé. La tenue et l'attitude de l'artiste étaient absolument correctes. Il eût été difficile d'offrir aux regards avides des habitués de la cour d'assises un héros criminel d'une physionomie plus sympathique. Il était aisé de comprendre que le jury avait en face de lui un accusé qui ne se troublerait pas et auquel rien n'arracherait des aveux ou des renseignements qu'il avait résolu de taire. Ainsi que Madame Deblin, lui dit de suite Monsieur de la Marnière, vous avez refusé de répondre à Monsieur le juge d'instruction sur les faits principaux de la prévention. Votre intention est-elle de garder également le silence ici ?
Non, Monsieur le Président, répondit le jeune homme d'une voix ferme, claire, bien timbrée. Si j'ai mis fin brusquement à mon interrogatoire chez Monsieur le juge d'instruction, c'est après m'être entendu appeler empoisonneur dès mon arrivée dans le cabinet de ce magistrat. Et cela sur un ton si convaincu que j'ai supposé toute explication inutile. Mais je suis prête à vous répondre avec autant de déférence que de franchise.
Vous savez la gravité des faits relevés à votre charge. Accusée d'avoir fourni à Madame Deblin le sel de cuivre avec lequel elle a empoisonné son mari, vous êtes, selon l'instruction, devenue son complice parce qu'il existait entre elle et vous des relations coupables. Relations prouvées par vos lettres saisies chez celle que vous aimiez, et parce que vous vouliez faire disparaître celui dont la présence était un obstacle à la liberté de votre passion adultère.
Tout d'abord, j'affirme, je jure, qu'il n'y a jamais eu entre Madame Deblin et moi que des relations amicales. Ces malheureuses lettres sont de moi, en effet, mais elles ne lui ont pas été adressées. J'ignorais même qu'elles lui eussent été confiées. Si je l'avais su, je l'aurais supplié de ne pas les garder. J'aurais insisté avec respect mais fermeté pour qu'elle les brûlât. Je ne dirai pas plus que Madame Deblin à qui ces lettres ont été écrites. Ce serait de ma part une lâcheté. Je ne la commettrai pas alors même que l'accusation qui pèse sur moi et sur cette femme, irréprochable dans sa conduite, reposerait sur des bases plus sérieuses que celles qui la soutiennent à peine. Voilà pour ces lettres si compromettantes, je le reconnais. Quant à ma complicité dans un crime qui n'existe pas ou qui, s'il existe, n'a pas été commis par Madame Deblin, je dois laisser le soin de la repousser à mon défenseur et ami, Maître Leblanc. Aussi, ne dirai-je à ce sujet que quelques mots. J'étais l'ami du malheureux qu'on m'accuse d'avoir fait empoisonner, et je n'avais aucun intérêt à sa mort, quoi qu'en prétende l'accusation, puisqu'il n'existait pas, entre sa femme et moi, de relation coupable. Ces lettres, adressées à une autre personne, ne disent-elles pas assez que ma liberté était enchaînée ? Mais quand bien même, je demande pardon à ma co-accusée de faire un instant cette supposition, quand bien même, j'aurais été aimée par Madame Deblin, pourquoi cet amour aurait-il fait de moi un assassin ? Pour la rendre veuve et l'épouser ? Ceux qui ont ainsi raisonné ignorent le premier mot des passions humaines et l'égoïsme qui, le plus souvent, les dirige. Comment ? J'ai une maîtresse jeune, belle, riche, élégante, que couvre un pavillon honorable, qu'un mari laisse libre, et moi, qui suis également jeune et riche, amie de ma liberté, de nature indépendante, vous supposez une seconde que j'ai pu commettre un crime dans le seul but de faire une chaîne de fer de ces liens de fleurs que la bonne fortune m'avait donnée. Si j'avais non pas agi, mais seulement une intention d'agir ainsi, ce n'est pas en cour d'assises qu'il aurait fallu me traduire. C'est à Charenton que vous auriez eu à m'envoyer. Laissez donc la pensée de ces crimes et leur exécution à de pauvres diables que la misère ou l'avarice affole. Mais n'en accusez pas un homme tel que moi, que son intelligence et son passé défendent également, lors même que vous resteriez convaincu de ses relations coupables avec la veuve de la victime. « Mais on a trouvé chez moi, dit l'accusation, de l'arseniette de cuivre, et M. Deblin
a été empoisonné par des sels de cuivre.
D'abord, M. Dublin est-il réellement mort empoisonné et l'a-t-il été par l'absorption de l'un de ces sels?
J'ai lieu de croire que, dans quelques instants, vous changerez d'avis. Mais soit, le médecin légiste ne s'est pas trompé et l'instruction en a conclu aussitôt que, parce que j'avais eu en ma possession de l'arsenite de cuivre, je devais en avoir fourni à Mme Dublin pour empoisonner son mari.
Elle dit même plus. Je n'ai acheté ce produit que dans ce seul but.
Le magistrat, qui s'est ainsi prononcé, a oublié que je suis peintre. Il ignore que bon nombre d'artistes aiment à broyer certaines des couleurs dont ils se servent. Il ne savait pas sans doute alors que l'arseniate de cuivre est la base des verres véronaises et métis. Et dans sa perquisition, si minutieuse cependant, il n'a donc pas fait attention à une robe de soie verte qui se trouve certainement encore dans l'une des grandes armoires de l'atelier, à la malle, robe qui devait me servir de modèle pour terminer le portrait de Mme Dublin. Voilà pourquoi, messieurs, je m'étais fait envoyer de l'arseniate de cuivre par mon marchand de couleurs habituel. Voilà comment, de peintre de quelque réputation, honoré, aimé, estimé de ses nombreux amis de Paris, de soldat médaillé sur le champ de bataille, je suis devenu subitement empoisonneur en province. J'aurais honte de prolonger davantage ces explications. Mais je n'en suis pas moins prêt à répondre à toutes les autres questions que M. le Président croira devoir m'adresser.
À ces derniers mots de Félix Barthé, l'auditoire ne put se contenir plus longtemps. Et la majorité de ce public, qui avait un peu le droit de se croire au théâtre, éclata en applaudissements. On eût dit que bon nombre de gens avaient honte, pour leur ville, de l'accusation dont cet étranger était l'objet, et qu'ils voulaient, en Vermellois intelligent, protester contre la sottise des juges auxquels l'artiste parisien avait eu affaire. M. Babou comprit si bien ce qui se passait qu'il en devint verdâtre, pendant que sa femme et Mme Lachaussée, pour cacher leur embarras et leur rougeur, affectaient de causer tout bas entre elles. Et tandis que M. Duret répondait par des sourires narquois et des haussements d'épaules à ce qu'il venait d'entendre. Quelques instants après, l'honorable président des Assises poursuivit les débats par l'audition des témoins. Ces témoins, nous le savons, étaient peu nombreux, puisque la défense n'en avait fait citer qu'un seul, l'employé de l'octroi Millet, qui n'avait pas été entendu dans l'instruction, et que M. de la Marnière avait autorisé le docteur Plémen, ainsi que Mme du Sourtois, à ne pas comparaître. La lecture de leurs dispositions écrites devait suffire. Aussi, l'audition des témoins allait-elle se faire rapidement et sans soulever aucun incident nouveau. C'étaient, on se le rappelle, les domestiques des Dublin. Ils répétèrent devant la cour ce qu'ils avaient dit à M. Babou. Rien, dans la conduite de leur maîtresse, n'avait jamais éveillé leur critique, ni, à plus forte raison, leurs soupçons. Et ces affirmations de gens du peuple, restés dévoués à celles qu'ils avaient servies, redoubla encore les sympathies de ceux qui restaient fidèles aux accusés. Mais l'espoir revint aux ennemis de la pauvre Réa dès que le greffier commença la lecture de la déposition de Mme du Sourtois. On se souvient avec quelle fermeté, on pourrait dire avec quelle conviction, la terrible tante s'était exprimée devant M. Babou. Or, comme celui-ci n'avait rien omis des affirmations malveillantes de ce témoin, le seul qui eût parlé de façon à venir en aide à la prévention, et que, de plus, Mme du Sourtois jouissait d'une grande réputation d'honnêteté et de probité, sa déposition causa une vive impression. Il devint immédiatement visible que la partie jusque-là hésitante de la foule se rangeait du côté des adversaires irréconciliables de Mme Dublin. Est-ce qu'il était possible qu'une digne et sainte femme, telle que la tante de l'infortuné Raymond, osât avancer le moindre fait sans en avoir la preuve certaine? Est-ce que, bien au contraire, pour peu que sa conscience le lui eût permis, elle n'aurait pas gardé le silence, ne fût-ce que pour l'honneur du nom de son neveu? Tant que dura cette lecture, Réa garda la tête baissée et ne put retenir ses larmes. On en augura de suite qu'elle se sentait perdue devant des témoignages aussi indiscutables de ses torts d'épouse. L'émotion de l'auditoire devint encore plus grande à l'audition du rapport médico-légal du docteur Plémen. Le doute n'était plus possible. M. Dublin était réellement mort, empoisonné. On savait bien que la défense allait faire entendre un médecin, un inconnu, un Américain, c'est-à-dire un compatriote de l'accusé, ce qui autorisait déjà à n'avoir en lui qu'une confiance médiocre, et que ce contre-expert se proposait de combattre les conclusions du célèbre toxicologue.
Mais n'était-ce pas là de l'outrecuidance de la part de cet étranger? Discuter avant le savant Plemen? Il fallait être fou.
Cependant, lorsque le président invita le docteur Maxwell à prendre la parole et que l'on vit s'avancer jusqu'à la barre cet homme, à la physionomie intelligente et fine, à l'attitude correcte et distinguée, le silence se fit subitement. Tout le monde redevint attentif. On semblait pressentir que l'heure de quelque surprise étrange ne tarderait pas à sonner. Madame Deblin avait relevé la tête et n'allait plus quitter des yeux son défenseur. Elias Panton, la face congestionnée par l'indignation, paraissait retrouver un peu de calme. Le révérend Jonathan murmurait dévotement. « Enfin, le Seigneur va parler par la voix de l'un des siens. » Et Félix Barthé, tourné vers Réa, semblait lui dire du regard. « Encore quelques instants de courage. Bientôt nous serons vengés tous deux. » Après avoir salué la cour et le jury, le docteur américain commença en ces termes, d'une voix nette, distincte, qui devait parvenir jusqu'au fond de la salle. Chargé par Monsieur le juge d'instruction Babou des recherches médico-légales tendant à fixer les causes de la mort de Monsieur Deblin, décédé depuis 20 jours, Monsieur le docteur Plemen, après avoir pratiqué l'autopsie du corps du défunt et soumis les organes qu'il en avait enlevés à l'analyse chimique, a conclu à un empoisonnement par des sels de cuivre, sulfate, acétate ou arséniate. Eh bien, j'affirme, moi, qui me suis également livré au même examen, que, si ces organes contiennent en effet du cuivre, ils n'en renferment pas une quantité suffisante pour avoir pu occasionner la mort de celui que la justice pense avoir été empoisonné par l'un de ces sels. Et cela, d'autant plus que des indices certains démontrent scientifiquement qu'il se pourrait que ce corps, au moment où la vie l'a abandonné, renferma moins de cuivre que 20 jours plus tard. Un mouvement de stupeur et d'incrédulité s'étant produit à ces mots dans l'auditoire, et le procureur général, ainsi que le procureur de la République et le juge d'instruction, les ayant accueillis par un sourire narquois, Maxwell fixa ces messieurs tour à tour de son regard incisif, en répétant comme à leur adresse « Ce que je dis là, je l'affirme. Je le prouverai dans un instant. » Et se retournant vers les jurés, il poursuivit. « Permettez-moi de vous faire observer, messieurs, et j'appelle toute votre attention sur ce fait qui ne sera pas contesté. Monsieur Deblin n'a pas succombé à une absorption répétée, continue, de sel de cuivre, à ce qu'on appelle un empoisonnement lent, car pendant les quelques semaines de souffrance, et non pas de maladie bien caractérisée, qui ont précédé sa mort, il n'a pas eu de vomissement. Sa santé n'a présenté aucun des phénomènes morbides bien connus qui sont les conséquences de l'ingestion du cuivre lorsqu'il ne s'assimile pas aux organes. Ce qui arrive parfois, assurent les praticiens les plus érudits, ce que l'expérience a démontré, ce que Monsieur le docteur Plemen ne peut ignorer. Si Monsieur Deblin avait été soumis à cet empoisonnement lent, ou il s'en serait aperçu et la justice n'aurait eu à s'en occuper que si la victime elle-même avait porté plainte, ou il y aurait succombé, mais après de telles crises et dans des conditions si démonstratives que son médecin et ami, Monsieur le docteur Plemen, l'aurait constaté, ainsi que toutes les personnes qui l'approchaient. Or, rien de semblable ne s'est produit. Il faut donc repousser cette première hypothèse d'un empoisonnement lent, parce que tout la rend inadmissible. La science aussi bien que le plus simple bon sens. Reste l'absorption brutale d'une dose foudroyante d'arséniate de cuivre. C'est là, évidemment, selon l'accusation, le moyen employé par l'assassin. Vous ignorez peut-être, messieurs, ce qu'est l'arséniate de cuivre, dont quelques grammes doivent se trouver là, sur cette table, parmi ces pièces à conviction que Monsieur le Président des Assises a bien voulu faire recouvrir d'un voile par un sentiment d'humanité qui l'honore. L'arséniate de cuivre, composé d'acide arsénieux et de cuivre, est sous la forme d'une poudre extrêmement fine, un sel de couleur verte fréquemment employé dans l'industrie. Les peintres s'en servent pour obtenir le vert mitis et le vert véronèse, de même qu'on se sert de l'arséniate de cuivre pur, c'est-à-dire non cristallisé et ne renfermant pas d'acide acétique, pour obtenir le vert de Schiele, poison plus terrible encore, puisqu'il suffit qu'une chambre soit tendue d'un papier peint avec cette couleur pour occasionner les accidents les plus graves.
Cet arséniate de cuivre est un poison violent, c'est incontestable. Mais M. Deblin a-t-il succombé à son ingestion? Ce ne serait point impossible. Toutefois, il aurait fallu d'abord pour cela que le malheureux à la vie duquel on attendait fût dans un état d'insensibilité complète, sans quoi il n'eût pas absorbé de son bon gré, et on aurait pu lui faire absorber, sans qu'il s'en aperçût, la potion renfermant ce poison. Il faudrait supposer qu'il eût perdu tout à la fois la vue et le goût, car l'arséniate de cuivre teint en vert éclatant tout liquide, et le palais le moins délicat n'en pourrait supporter la saveur horrible, pas plus d'ailleurs qu'il ne supporte celle des autres composés de cuivre. Mais soit, admettons un instant que M. Deblin assoupit, plongé dans une espèce d'anesthésie, et bu ce liquide empoisonné. Est-ce que son estomac ne se serait pas révolté et n'en aurait pas rejeté une partie? Est-ce que les douleurs atroces qu'il aurait immédiatement ressenties n'auraient pas provoqué ses plaintes, ses appels? Est-ce que, en quelque sorte galvanisé par la souffrance, il ne se serait pas levé, ou du moins n'aurait pas tenté de le faire pour trouver du secours? Or, rien de pareil n'a eu lieu. La victime de cet étrange empoisonnement n'a jeté aucun cri. Elle a été trouvée dans son lit, à peine en désordre. Son visage ne trahissait aucune lutte avec la mort. M. Deblin paraissait au contraire avoir passé du sommeil au dernier repos, comme si la mort l'avait surpris pendant qu'il dormait. Et autour de lui, ni sur son linge, ni sur ses draps, ni sur les tapis, nulle trace de vomissement. Rien, enfin, de nature à éveiller l'attention de l'éminent praticien M. Magnier, appelé à son chevet quelques heures plus tard. Donc, on le voit, aucun phénomène pathologique externe ne permet d'admettre que M. Deblin a succombé à un empoisonnement en quelque sorte foudroyant par des sels de cuivre, pas plus qu'à un empoisonnement lent. Si je passe à l'autopsie et à l'analyse chimique des organes, je me vois en présence des contradictions les plus inexplicables scientifiquement. Dans les viscères et les diverses parties du corps, que j'ai soumis à l'aide de tous les moyens connus à une analyse minutieuse, j'ai trouvé, il est vrai, quelques traces appréciables de cuivre, mais dans une proportion si restreinte que son absorption n'aurait pas pu causer la mort, selon tous les toxicologues qui se sont spécialement occupés de cette question. Mais nulle part, là où la présence du cuivre cause des désordres faciles à constater par son action corrosive, je n'ai rien découvert de semblable. Pas de taches gangréneuses dans l'estomac, pas d'ulcération de l'intestin, rien, rien. L'arséniate de cuivre, ou tous autres sels qu'on prétend avoir été absorbés par M. Deblin, serait donc allé droit aux organes qu'il devait affecter, sans laisser trace de leur passage. C'est inadmissible, parce que c'est impossible. Ce qui n'est pas moins démonstratif, ce qui permet de repousser avec une égale conviction scientifique le mode d'empoisonnement déclaré par le rapport dont je combats les formules et les conclusions, c'est que ce corps, dont la vie aurait été chassée par l'ingestion d'un composé de cuivre, n'importe lequel, c'est que ces organes, supposés saturés de poison, m'ont été livrés dans un état de décomposition tel que l'examen le plus simple, le plus superficiel pour ainsi dire, ne permettait pas de s'arrêter à l'hypothèse d'un empoisonnement par aucun de ces toxiques. N'est-il pas avéré, n'est-il pas scientifiquement prouvé que le cuivre et ses composés conservent les corps, et cela a fortiori s'il s'agit d'un composé de cuivre et d'arsenic, puisque l'arsenic jouit de cette même propriété. Car sinon, d'après le rapport médico-légal, du moins d'après les déductions singulièrement fantaisistes de l'accusation, c'est à l'absorption d'arséniate de cuivre que M. Deblin a succombé d'une façon foudroyante. Le rapport, lui, ne constate que la présence du cuivre, acétate ou sulfate, dans les organes de la victime. Il ne parle pas de l'arsenic, dont des parcelles infinitésimales sont aujourd'hui faciles à découvrir, longtemps même après leur absorption, grâce au progrès de la chimie. Or, en adoptant cette supposition de l'accusation elle-même, je suis encore armé plus vigoureusement pour affirmer sur l'honneur, dans ma conviction profonde, en mon âme et conscience, que la justice n'est pas en présence d'un empoisonnement par des sels de cuivre, quel qu'il soit. Permettez-moi, messieurs, de vous inviter à bien graver dans votre mémoire cet axiome, par lequel je résume ce point spécial de mon examen. Je n'ai trouvé dans les différentes parties du corps dont il s'agit que du cuivre normal. Mais en revanche, j'y ai découvert une grande proportion d'alcaloïdes, ptomaïdes, alcaloïdes cadavériques, qu'on ne peut confondre avec les alcaloïdes végétaux. Si M. Deblin avait été empoisonné par le cuivre, comme les sels de cuivre sont de puissants antiseptiques, il se serait opposé au développement de ces alcaloïdes cadavériques. D'autant plus que, de l'aveu même du docteur Plemen, et ainsi que l'a constaté le docteur Magnier, le malade a succombé rapidement et n'a présenté les symptômes de nulle maladie infectieuse. C'est à maître Leblanc, le défenseur de M. Barthet, qu'il appartiendra spécialement de vous demander pourquoi l'accusation a choisi l'arséniate de cuivre, de préférence à tous les autres composés de ce métal, que l'on rencontre le plus souvent dans les statistiques criminelles parce que ce sont là des toxiques qu'il est aisé de faire soi-même ou de se procurer. Même moi, je demande que la Cour ordonne une troisième analyse par l'un des experts jurés de Paris. C'est le droit de la défense de l'exiger, comme c'est également le droit de l'accusation. C'est le devoir de la justice de l'accorder. Et je termine en exprimant tout mon étonnement que l'instruction, contrairement à ce qui a toujours lieu en semblable matière, ait confié l'analyse chimique au même opérateur qui avait pratiqué l'autopsie. Ah, je sais ce que vous répondra sans doute, monsieur le procureur général. Il vous dira que l'instruction a agi de la sorte parce que monsieur le docteur Plemen est un des savants toxicologues de notre époque et que son rapport ne pouvait être que celui d'un impeccable. Eh bien, je l'affirme de nouveau, votre savant impeccable s'est trompé. Et ce qu'il y a d'étrange, d'incompréhensible, d'inexplicable, c'est qu'il s'est trompé grossièrement et qu'il n'y a qu'une seule chose à admirer dans ce rapport, l'habileté avec laquelle il a dissimulé ses erreurs. Erreurs qu'un élève en pharmacie de première année n'aurait pas commise. Ce n'est pas seulement à une analyse chimique qu'il faut demander les causes de la mort de M. Deblin. C'est à une analyse physiologique, ce que M. le docteur Plemen a négligé de faire. Peut-être, au cours de ces débats, m'expliquerai-je plus complètement encore. Mais en attendant, allant au-devant de la requête que présenteront à la Cour les défenseurs des accusés, j'insiste pour qu'une troisième expertise soit ordonnée, et surtout, et avant tout, pour que M. le docteur Plemen soit entendu ici, par messieurs les jurés. J'ai la conviction que, lorsque mon éminent confrère connaîtra dans quels termes j'ai combattu son rapport, il n'hésitera point à venir défendre ses conclusions médico-légales, quelle que puisse être sa répugnance à comparaître dans une affaire où il n'est question que de la mort de son ami, quel que soit même son état de santé. Ces derniers mots, prononcés avec une grande fermeté, Maxwell salua de nouveau la cour et le jury, puis il reprit sa place au banc de la défense où maître Leblanc et Langerolles l'accueillirent en lui serrant les mains, pendant que Madame Deblin et Félix Barthet lui exprimaient leur reconnaissance par d'affectueux regards. Au même instant, sortant peu à peu de l'émotion poignante qu'il avait tenue silencieux tant que l'Américain avait gardé la parole, l'auditoire éclata en bravo. Il était évident qu'il se faisait dans la foule un revirement complet, qu'il doutait maintenant de la culpabilité des accusés, plus encore qu'elle n'y avait cru après la lecture de la déposition de Madame du Sortois. Quant à Elias Panton et au révérend Jonathan, fiers de leurs compatriotes, il ne fallait rien moins que la crainte de se faire expulser de l'audience pour qu'ils ne lancent à ce point de retentissants hurrahs. Néanmoins, le silence se fit brusquement lorsque M. de la Marnière demanda à l'avocat de Madame Deblin. « N'avez-vous pas cité deux témoins, les nommés Dumont et Millet ?» « Oui, monsieur le président, » répondit maître Langerolles. « Mais si l'audience doit être suspendue, mon confrère maître Leblanc et moi prions la cour de vouloir bien nous autoriser à ne les faire entendre qu'à la reprise des débats, car peut-être renoncerons-nous à leur audition, tout à la fois pour ne pas abuser de la bienveillante attention de la cour et pour abréger le martyre des accusés. J'ajouterai que nous nous joignons à notre éminent auxiliaire, monsieur le docteur Maxwell, pour demander instamment que monsieur le docteur Plemen soit invité à comparaître. Nous attachons une importante capitale à sa comparution devant messieurs les jurés.
Nous n'avons pas le droit de forcer monsieur le docteur Plemen à comparaître, répondit l'honorable conseiller, mais nous allons tout tenter pour le décider à se rendre ici, et nous l'entendrons à la reprise des débats. L'audience est suspendue pour une demi-heure.
La cour passa dans la chambre du conseil, et les jurés gagnèrent leur salle des délibérations, et la majeure partie du public se répandit dans les escaliers et les couloirs, tandis que quelques personnes, au contraire, ne songeaient pas à sortir, dans la crainte de ne plus retrouver, à la reprise de l'audience, les places privilégiées qu'elles occupaient. Quelques minutes plus tard, Madame Deblin et Félix Barthet étaient de nouveau entourés de leurs amis, dans la pièce que leur avait assignée M. de la Marnière. Madame Good Parker, qui n'avait pas assisté au débat, s'était jetée au cou de sa sœur. Celle-ci ne cessait de lui répéter.
Sois rassurée, ma Jenny, bientôt je serai vengée. » Puis elle passait des bras de son père, que l'indignation rendait cramoisi, dans ceux du révérend qui, lui tout au contraire, paraissait plus blême que jamais, et vouait à la damnation éternelle les accusateurs de sa nièce, en les accablant de toutes les maximes bibliques que lui fournissait sa mémoire. Quant au docteur Maxwell, après avoir échangé quelques mots à voix basse avec maître Langerolle et Leblanc, il avait disparu.